France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un des mythes de l'histoire de la musique, de l'histoire de l'humanité même, on peut dire, Mozart. Il a inspiré ceux qui écrivent, ceux qui filment, même ceux qui composent. C'est Mozart que raconte à quatre périodes de sa vie Mathieu Mégevand dans son nouveau roman « Tout ce qui est beau » qui vient de paraître chez Flammarion. Bonjour Mathieu Mégevand.
Bonjour.
De Miloš Forman à Pushkin, en passant par Sacha Guitry et Reynaldo Hahn. Ce Mozart de fiction qui a beaucoup inspiré, est-ce que ça a été pour vous un poids, un fardeau, un épouvantail dans l'écriture du livre ?
Pas au départ. Ce qui a été un poids, ça a été la masse de choses qui ont été écrites, mais non pas en fiction, mais en essai, en musicologie. Le poids également de la correspondance qui est immense, qui est monstrueuse, de Mozart fils, mais de Mozart père, mère, sœur, etc. Donc le matériau à défricher au départ était immense. Ça m'a pris 2 ans où j'ai pas écrit une ligne, où j'ai seulement lu, pris des notes, etc., fait des recherches très vastes. Ça, c'était énorme. Le poids de la fiction qui me précédait, j'ai essayé de l'oublier et de évidemment rien aller voir ou revoir pour ne pas être influencé.
Après La Bonne Vie sur le poète Roger Gilbert Lecomte, après Lautrec consacré au peintre, Tout ce qui est beau vient clore une trilogie. Vous l'avez intitulée Créer, détruire. En quoi la création a-t-elle détruit Mozart ?
Alors justement, le projet était de lier création et destruction dans cette trilogie, mais au fur et à mesure que j'ai avancé, on peut dire que la création a pris de plus en plus le pas et la destruction de moins en moins. C'est-à-dire que pour le premier, le poète méconnu Roger Gilbert Lecomte, la destruction est vraiment omniprésente. C'est donc un poète toxicomane, etc., qui meurt à 36 ans de overdose. Et puis Toulouse-Lautrec, qui est un alcoolique, mais... au fur et à mesure.
Qui meurt au même âge.
Exactement, 36 ans. Et pour Mozart, alors, c'est quasi 36, c'est 35 et 3 quarts, disons qu'on y est presque. Et pour Mozart, c'est notamment ça, en fait, qui m'a intéressé, c'est que la destruction soit beaucoup plus accidentelle, mais par contre, la création soit évidemment non seulement omniprésente, mais c'est même, si vous voulez, il y avait une sorte de défi pour moi, parce que c'était de me dire quel est le créateur absolu, le mythe, le génie, etc., dans la, on va dire, l'histoire de la culture européenne. Et évidemment, Mozart était le premier. Et ensuite, en commençant à chercher, je me suis rendu compte que voilà, c'était passionnant d'essayer d'aller fouiller derrière les mythes, derrière les légendes sur Mozart, pour tenter de déceler quelque chose lié à ce thème de la création.
Ça fait 3 artistes morts à la fleur de l'âge, 36 ans ou presque, pour Mozart. C'est d'ailleurs votre âge quand vous avez écrit.
Ouais, j'étais plus jeune quand j'ai commencé. Et pour rien vous cacher, il y avait un moment donné où j'approchais de cet âge quand j'étais en train de travailler sur Toulouse-Lautrec et j'avais un petit pincement en me disant « Tiens, me voilà arrivé à l'âge où mes personnages voilà, décèdent. » Mais évidemment, je ne menais pas la même vie, en tout cas que Roger Gilbert Lecomte et que Toulouse-Lautrec, donc... Maintenant, j'ai dépassé ce stade fatidique, il n'y a plus d'inquiétude.
Nous sommes avec Mathieu Mégevand, Tout ce qui est beau, roman autour sur Mozart, paraît chez Flammarion. Mozart a écrit 41 symphonies, voici la première. le premier mouvement de la première symphonie de Mozart, Köchel 16. C'était l'orchestre baroque d'Amsterdam dirigé par Ton Koopman. Et c'est une symphonie que Mozart écrit, si je ne m'abuse, à 8 ans. Mathieu Mégevant est notre invité ce matin pour ce livre sur Mozart, enfin sur des moments de la vie de Mozart, tout ce qui est beau qui vient de paraître chez Marion. Mathieu Mégevant, d'abord, comment on plonge dans Mozart? Vous avez dit, il faut d'abord se documenter, il faut beaucoup l'écouter aussi.
Exactement. Alors en parallèle de mes recherches, pendant ces deux années dont je vous parlais, j'ai évidemment été du Köchel 1 au 633.
626.
626, pardon. Donc voilà, j'ai évidemment pas pu tout écouter ou alors survoler. Mais bien sûr, il faut se plonger là-dedans. Et alors, c'est passionnant à deux égards. Le premier, moi, c'est la correspondance surtout qui m'a servi de matériau premier. Évidemment, c'était ma Bible pour faire mes recherches puisque c'est la source primaire, comme on dit en histoire. Mais aussi, évidemment, les œuvres. On connaît tous Mozart, voilà, mais quand on s'y plonge vraiment, on constate la diversité, la multiplicité, le génie inouï dans des formes qui sont extrêmement variées, de la musique sacrée à la sonate pour piano, de l'opéra à la musique de chambre. Tout y est, en fait, à quasiment toutes les formes musicales y sont, plus ou moins, je dirais. Et tout est beau. Donc c'est vraiment, je pense que c'est le moment que j'ai préféré dans ce travail jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire la fin de l'écriture. Le moment qui m'a le plus marqué et épanoui personnellement, je dirais que c'était vraiment la fréquentation des œuvres quasiment tous les jours pendant deux ans. Ouais.
C'est pas écrasant la vérité historique, l'exactitude des faits quand on écrit un roman sur un personnage qui a existé, ce qu'on appelle, il y en a beaucoup maintenant, des exo-fictions.
Alors c'est un petit peu écrasant. Moi, donc comme vous l'avez dit, c'est une trilogie. Donc ces trois livres, à chaque fois, c'est la même méthode. Un gros travail de recherche d'abord pour être justement au plus proche du personnage historique, enfin autant que possible, autant que l'histoire le permet. Et ensuite, c'est un roman, donc il y a de la fiction. Ça veut dire que, évidemment, que je dois inventer certaines choses. Je peux pas savoir ce qu'a senti, vu, pensé Mozart à tel ou tel petit épisode. Donc ça, évidemment, il faut combler les blancs. Mais ensuite, j'ai toujours un critère de plausibilité. Jamais je ferai dire, penser, etc., quelque chose à mon personnage qui ne serait pas, à mon sens, après toutes mes recherches possibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importait beaucoup pour les trois romans et donc pour Mozart. Donc je pense que le Mozart que je propose, comme le Toulouse-Lautrec et comme le Gilbert le Comte, sont vraiment proches, relativement proches en tout cas, de la personnalité historique. Ensuite, il y a de la fiction, mais je dirais que surtout la fiction, spécialement pour Mozart, elle est dans le fait d'avoir trié, d'avoir choisi. Comme vous l'avez dit, c'est des périodes, quatre périodes. Évidemment, il y a mille choses dont je ne parle pas sur la vie de Mozart. Et pourquoi? Parce que moi, ma focale, mon point central, c'est toujours la création. Donc, tout ce qui me semblait nécessaire lié à la création dans la vie de Mozart, je l'ai extrait. Et c'est ce qui, en fait, c'est peut-être là où il y a le plus de fiction. C'est à travers tous les blancs qui ne sont pas évoqués du fait que j'écris pas une biographie de 1000 pages, ce qui a déjà été fait et bien fait.
Quatre périodes avec ces ellipses, il y a l'enfance, les débuts difficiles, la consécration avec Vienne où il peut s'épanouir et puis le déclin.
Le déclin, ouais, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, il y a alors, voilà, l'enfance, c'est peut-être une partie relativement connue, voilà, c'est le singe savant. Qu'on promène dans toutes les cours d'Europe, pour qu'il joue, voilà, c'est merveilleux, tout le monde est ébahi, est épaté, très bien. Ensuite, alors c'est extrêmement difficile, notamment à Paris, puis Vienne.
Qu'il n'aime pas, que personne n'aime dans la famille.
Non, alors il aime pas Paris, alors ça c'est certain, il n'aime pas la France, et il n'aime en particulier pas Paris, mais aussi pour des questions de circonstances, c'est-à-dire qu'il y va après avoir été rejeté des autres cours d'Allemagne, on n'a pas voulu de lui finalement, donc il atterrit, il échoue à Paris, en plus il est avec ce baron von Grimm, qui est un personnage connu pour ceux qui aiment Rousseau, parce que Rousseau et lui ont d'abord été amis et puis ensuite se sont brouillés, et donc ce Grimm qui avait accueilli Mozart jeune, le re-accueille sous les conseils du père quand il est jeune adulte. Et alors là, ça se passe extrêmement mal parce que Mozart, en fait, c'est quoi? C'est un jeune Allemand avec un fort accent qui parle pas bien le français, qui se place pas, qui se vend pas, etc. Et qui est tout seul. Il y a juste sa mère, dont il fait peu cas, on va dire. Et puis, voilà, il est seul à Paris et ça marche absolument pas. Ensuite, à Vienne, c'est l'apothéose de sa carrière, de ce point de vue-là. Et puis ensuite, c'est la chute des dernières années. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai essayé de montrer peut-être dans le livre, c'est que c'est une oscillation constant de haut et de bas, mais que la mort qui le fauche à une période où c'était plutôt en train de remonter, en fait. C'est-à-dire que la légende de la chute vertigineuse de Mozart, elle est pas réelle du tout. C'est-à-dire qu'au moment où il meurt, alors il y a la messe des morts, il y a le requiem évidemment qu'il est en train de composer, mais c'est surtout la flûte enchantée. C'est ça le moment Mozart de la fin de sa vie, c'est la flûte enchantée qu'il a composée, qui est en train d'être jouée et qui va connaître un immense succès. Et on peut penser que là, il allait de nouveau connaître un nouveau moment de reconnaissance.
Et puis il y a des œuvres précises, pas forcément les plus connues, qui reviennent dans ce livre Tout ce qui est beau, Mathieu Méjour, et notamment cette sonate en la mineur. Mozart, le presto de sa 8e sonate en la mineur, 7e mariage, Joao Pires. Au piano, Mathieu Méjouan est notre invité ce matin. Tout ce qui est beau vient de paraître chez Flammarion. Cette sonate, elle revient plusieurs fois dans votre livre, notamment à la fin de sa vie, il la rejoue de façon un peu frénétique. Pourquoi vous êtes arrêté sur des musiques en particulier qui reviennent comme un fil?
Oui, alors là, il y a évidemment un choix subjectif de romancier, puisque j'aurais pu m'intéresser à d'autres sonates. Elles ont chaque fois, pour moi, à mes yeux, elles me semblaient très importantes pour tenter de comprendre le processus créateur chez Mozart, pour tenter d'explorer un petit peu comment tout ça naît. On parlait de Paris tout à l'heure. Cette sonate, elle naît à Paris quand Mozart est justement tout seul. Personne ne sait qui il est, personne ne le reconnaît. Tout le monde s'en fiche de Mozart d'une certaine manière. Et on a souvent dit qu'elle avait été composée après la mort de sa mère, ce qui n'est pas vrai. Elle est composée avant, pas longtemps avant, mais avant quand même. Et c'est la première en mineur qui compose. Il y en aura une seule autre, dont je parle aussi dans le livre, en do mineur, la K457. Et pour moi, elle révèle quelque chose sur Mozart. Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, après coup, on entend tout ça, c'est devenu des classiques. Voilà, tout le monde a entendu cette sonate, sans doute au moins une fois, peut-être pas le dernier mouvement, mais au moins le premier. Mais il faut bien imaginer de quoi on parle, d'un tout jeune Allemand perdu dans Paris, dans un petit logis,
un peu reclus,
voilà, miteux, qui connaît quasiment personne, qui ne voit personne, qui parle pas sa langue maternelle à part avec quelques amis, qui est tout seul, qui ne fait rien et qui compose ça à 22 ans. Donc faut imaginer quand même l'âge, c'est tout jeune encore. et il compose une des sonates qui est un monument de l'histoire de la musique pour toujours. Et ça m'intéressait vraiment d'essayer d'aller au plus près de cette création-là en particulier, parce qu'elle est, bon, tout est d'une beauté saisissante, mais celle-là en particulier.
Alors vous dites « tout est d'une beauté saisissante », le livre s'appelle « Tout ce qui est beau ». Et on l'a pas encore évoqué, mais comme on dit chez les journalistes, c'est un peu votre angle, la beauté. Comment il conjure cette laideur du monde avec la beauté de la musique. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'ouvre le livre avec une, on pourrait dire, une scène fondatrice au cinéma. On commencerait par cette scène et elle donne un peu l'angle du livre.
C'est exactement ça. Vous en parlez mieux que moi. C'est très... non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là encore, c'est quelque chose qui est venu après la lecture des lettres, etc. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette obsession qu'a Mozart pour la beauté sous toutes ses formes. Bien sûr, la musique, mais d'autres formes de beauté, un vêtement, même des choses très triviales, c'est pour conjurer le sort, conjurer le mal, la laideur, etc. La scène dont vous parlez au début...
Peut-être qu'on va l'expliciter en quelques mots.
La scène du départ, vous dites. Alors c'est une scène où Mozart.
On spoile pas parce que c'est au début.
Non, il y a aucun suspense. De toute manière, il meurt à la fin. C'est une scène où il est tout jeune enfant et il est dans un cochedon, un petit bateau avec son père et sa sœur. Et en face de lui, il y a un marchand, quelqu'un qu'il connaît pas du tout, qui est juste en face, mais qui est d'une laideur absolue, qui est gros, qui est sale, qui sent mauvais, etc., etc. Et Mozart, le tout jeune enfant Mozart, regardant ça, est complètement pétrifié par cette laideur. Il peut détacher les yeux de ce spectacle. Qui est immonde à tout point de vue à ses yeux d'enfant. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il chante un petit menuet pour conjurer, pour répondre à cette laideur. Et je pense qu'en effet, je mets dans ce premier chapitre, ça inaugure le roman et ça lui donne son ton, son programme, comme on pourrait le faire d'ailleurs en effet au cinéma, parce que c'est ce qui me semble être le point majeur chez Mozart. C'est cette obsession pour la beauté dans la musique et dans tout, et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui l'a poussé à créer quand ça marchait à Vienne, mais aussi quand personne ne l'écoutait à Paris, on vient de l'entendre, et plus tard à la fin de sa vie où là encore il est tout seul et où il s'acharne tout de même. C'est un mouvement très bref, d'une apparente simplicité proche du dépouillement. Mais à n'importe quel être humain qui écoute, n'importe où, n'importe quand, Mozart dit, comme un murmure qu'il insère entre l'âme et le cœur, tout s'achève, c'est inéluctable, pleure. Et tout de même et pourtant, écoute, c'est si beau. Tout cela prend à Mozart une heure, deux peut-être, 60 minutes, 60 autres minutes, 98 mesures. Et puis voilà, c'est terminé. Il ne lui en faut pas plus. L'adagio du concerto pour clarinette, qui survole de ses graciles ailes 4 siècles de musique, est composé. Mozart dépose sa plume, se frotte le visage, reste un moment muet, écoutant la pluie et le vent s'abattre sur les carreaux. L'idée de rejoindre des compagnons pour une bonne partie de billard et quelques chopines de bière le traverse et l'égaye aussitôt. À voix haute, il se dit « Assez !» Il empoigne son manteau et, sans attendre, quitte l'appartement.
extraite de l'Adagio du concerto pour clarinette de Mozart et Jörg Widmann, l'orchestre symphonique allemand de Berlin, dirigé par Peter Ruzicka et Mathieu Mégevan, qui a lu un extrait de son livre « Tout ce qui est beau », roman qui paraît chez Flammarion. Vous allez d'ailleurs à plusieurs reprises sur vraiment comme ici la fabrique de la musique, la composition. Vous-même, vous êtes musicien d'ailleurs ?
Amateur, pas du tout professionnel. J'ai grandi dans une famille de... Mon père et ma mère sont les deux musiciens amateurs, mais amateurs quand même, qui ont fait 15 ans de piano chacun. Donc ça veut dire voilà, des gens qui jouent très bien. Et j'ai grandi avec ça. Moi, j'avais fait un petit peu de solfège et de piano, mais il a fallu beaucoup que je décrypte le langage musicologique dont j'étais pas familier au départ. Mais je me suis rendu compte, en fait, que c'est vraiment deux choses différentes de parler de Mozart du point de vue du musicologue, c'est-à-dire c'est une analyse. Et puis évidemment, le romancier, c'est pas du tout ça qu'il doit faire. Ça m'a servi de base, de point de départ, vous voyez, évidemment, pour comprendre comment les choses s'agencent, se passent et tout. Mais ensuite, il faut tenter, alors c'est impossible, mais il faut tenter de rendre la musique ou au moins la manière dont elle éclot. Et c'est ça, modestement, j'ai tenté de faire à quelques... C'est pour ça que j'ai choisi aussi des compositions, on en parlait tout à l'heure, pour ne pas me perdre dans une succession voilà, d'œuvres que j'effleurerais. J'ai préféré vraiment, il y a 2-3 sonates et quelques autres œuvres, et vraiment j'ai tenté de rendre leur processus créateur et qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles deviennent.
De redonner aussi de l'humanité au divin Mozart, comme on le dit parfois.
Oui, assurément. Surtout que là, il y a vraiment une masse de mythes et de clichés sur Mozart qu'il faut. Il faut tenter de casser tout ça et de le décrypter. Ouais.
Vous le faites parfois, d'ailleurs, au moment du Requiem. Vous dites dans une incise que ça n'est pas Salieri qui l'a commandé. C'est quand même aussi une allusion, sans le citer, à Peter Schaeffer. Ensuite, la mise, l'adaptation au cinéma de Forman. Mais pourtant, ce Mozart-là, il existe. Il existe aussi dans votre livre, dans l'extrait que vous avez lu. Il écrit l'Adagio et ensuite il va boire des bières et au billard. Il montre ses fesses, il fait la fête, il boit. Il existe aussi et il est dans le livre.
Bien sûr, parce que je pense que ce qui était important à mes yeux, après avoir beaucoup travaillé sur l'histoire de ce personnage, c'était de le rendre tel qu'il est, c'est-à-dire un être humain complexe, comme nous tous, qui a plusieurs facettes. Et à mon avis, ce qu'on retenait, c'était soit un ange absolu qui composait de la musique divine, soit une espèce de bonnet de type un peu frivole, sur qui la musique tombait par accident et qui la retranscrivait. Et Mozart, c'est pas ça. Enfin, c'est juste un être humain extraordinairement compliqué, qui est léger et idiot parfois, qui est grave et profond à d'autres moments, qui a beaucoup de facettes. Donc bien sûr, il y a tout ça chez lui, c'est ce que j'ai tenté de rendre. Quant à l'empoisonnement évidemment de Salieri, ça date de Pouchkine, vous l'aviez dit aussi au début. Le petit texte Mozart et Salieri de Pouchkine, dont après Schaeffer et puis Forman s'inspirent, c'est juste un mythe de romancier qui est très bien comme fiction, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Mozart, l'humain, et pourtant, vous parliez d'ange absolu, et pourtant le divin Mozart, et pourtant Mozart à l'orgue qui s'arrête et qui a l'impression que c'est Dieu qui le fait composer. Vous, le directeur des éditions Labor et Fides, principale mais éditions protestantes suisses francophones, est-ce que cette dimension-là religieuse de Mozart, elle existe malgré tout dans votre esprit et dans le livre ?
Dans le livre, pas beaucoup, justement, parce que ça me semblait... Évidemment, c'est un personnage de son temps. On est au XVIIIe siècle, le christianisme, le catholicisme, en l'occurrence pour lui, est omniprésent. Donc, bien sûr qu'il fait de la musique sacrée, bien sûr qu'il joue de l'orgue. Bien sûr que parfois, son père, par exemple, n'arrête pas de parler du fait que tout ça est un miracle, que c'est miraculeux, etc., etc. C'est un don de Dieu. Donc, il y a une toile de fond culturelle là autour. Mais moi, je pense pas vraiment que Mozart se soit dit ça lui-même. Comme vous le savez, après d'ailleurs, il devient franc-maçon, donc il est très éloigné du catholicisme. Et c'est là encore quelque chose, c'est comme une explication un petit peu facile, vous voyez, de dire, au fond, c'est un miracle de Dieu, point barre. Moi, ce qui me semblait plus intéressant, c'était de voir qu'est-ce qu'il y avait chez l'homme.
L'homme, Mozart, tout ce qui est beau, roman, chez Flammarion, Mathieu Mégevan, merci d'être venu sur France Musique ce matin.
Merci à vous.
La fin d'une trilogie qui a commencé avec Roger Gilbert Lecomte, La Bonne Vie et Lautrec, une trilogie qui a commencé avec Daniel Darc, en fait, dans votre esprit ?
Tout à fait, c'était censé être le premier personnage, et pour plein de raisons ça marchait pas, mais Gilbert Lecomte, je l'ai connu grâce à Daniel Darc, donc ce livre sur Gilbert Lecomte lui est dédié.
Bon, on se quitte non pas avec Mozart, mais avec Daniel Darc.
Quelle bonne idée.
Je me souviens, je me rappelle, ces temps, ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle, je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et m'écartèle, pourtant comme jamais cette croix. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoile brillante dans la nuit.
Daniel Darc, je me souviens, je me rappelle, pour clore cette émission. Demain, notre invitée sera la pianiste et professeure Claire Désert. Elle sort plusieurs disques cette année. À la technique ce matin, il y avait Maxime de Peretti et Swat Boukorsa. La production, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon. À la réalisation, Yacine Bouzard.
À réécouter sur francemusique.fr.